RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonjour et bienvenue dans Mardi politique sur France 24 et sur RFI. Nous recevons aujourd'hui une figure de la gauche française, Jean-Pierre Chevènement. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre Chevènement, c'est en effet une figure historique de la gauche, car il a donné les clés du Parti socialiste à un certain François Mitterrand au début des années 1970, rédigé le programme commun de la gauche. Il en fut ensuite récompensé par un poste de ministre d'État après la victoire de 1981. C'est une figure originale qui n'a pas hésité à démissionner, non pas une, mais trois fois d'un gouvernement pour faire entendre sa différence et son désaccord. Que ce soit sur le tournant de la rigueur en 1983, la première guerre du Golfe en 1991, ou la Corse en l'an 2000, incarnant pleinement la fameuse phrase « un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ». Une figure parfois controversée, car certains à gauche pensent que c'est sa candidature en 2002 contre Lionel Jospin qui a permis à Jean-Marie Le Pen d'arriver au second tour. Une figure particulière car sa gauche porte nu la patrie, voue aux gémonies la globalisation, admire Vladimir Poutine et se méfie des États-Unis. Bref, une drôle de gauche accusée parfois de pencher à droite. Après sa retraite politique en 2014, le voilà qui revient en pleine lumière avec un livre décapant, Un défi de civilisation, publié chez Fayard. Et surtout, avec sa nomination cet été à la présidence pour la Fondation de l'Islam de France, une décision qui fait des vagues dans un contexte lourd marqué par les attentats et des débats souvent délétères sur la place de l'islam en France. Avec moi pour vous interroger, Véronique Rigolet de Radio France Internationale.
Bonsoir Jean-Pierre Chevènement.
Bonsoir.
Vous l'avez remarqué comme nous, rien ne va plus entre le président Hollande et l'hôte de Matignon, le premier ministre Manuel Valls, qui a ces derniers jours multiplié les piques, les critiques contre le chef de l'État. Alors je voudrais reprendre cette formule qui vous est si chère. Est-ce que vous pensez qu'à l'instar d'un ministre, un premier ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ?
En temps ordinaire, je répondrais oui. En l'occurrence, nous sommes à la veille d'échéances présidentielles. Le président de la République a fait connaître sa décision. Il dira au mois de décembre prochain s'il est ou non candidat à sa succession. Donc il y a encore un mois à attendre. Je propose qu'on se calme, qu'on lève le pied et qu'on s'abstienne de critiques inutiles. En attendant que François Hollande nous dise s'il a l'intention d'être ou non candidat.
Et d'ici là, le Premier ministre arrête ses critiques.
Je pense que le délai est assez court.
Quand le Premier ministre parle de sa colère, quand Claude Bartolone parle de sa déception, vous pensez qu'ils sortent de leur rôle, qu'ils exagèrent ou qu'ils ont raison parce qu'ils ont lu, comme nous tous, ce fameux livre ?
Vous savez, la vie politique, elle permet à chacun de s'exprimer. Naturellement, il y a des contraintes qu'on doit respecter. Mais ces contraintes sont d'autant plus faciles à respecter que le principal intéressé les respecte lui-même.
Mais la nature de cet affrontement, parce qu'il a été rude ces derniers jours, les mots sont allés très loin, en tout cas les propos du Premier ministre. Certains parlent même de crise de régime, ou alors c'est simplement presque une bataille, une querelle de bac à sable, comme le disait il y a quelques jours Manuel Valls, on l'écoute.
C'est la coordination, c'est le bac à sable, ce sont les commentaires, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse...
Ce que dit le président de la République, non ?
Ça ne m'intéresse pas, parce que ça n'est pas à la hauteur des enjeux, les enjeux que nous venons d'évoquer sur l'Afrique, le rôle de l'Europe, le terrorisme, la transition écologique, ça ne m'intéresse pas, la montée des populismes.
Voilà, Manuel Valls, sous nos antennes d'RFI et de France 24 il y a quelques jours. Donc, crise de régime, comme le disent certains commentateurs, ou bataille de bac à sable, mais tout de même dans les sables mouvants de la bataille présidentielle.
Mais vous avez très bien compris ma pensée. On peut attendre que les choses se dénouent. Elles se dénoueront d'elles-mêmes, avant peu.
Est-ce que vous pensez que François Hollande, aujourd'hui, est en position de se représenter beaucoup à gauche, de plus en plus à gauche, je devrais dire, pense qu'il ne l'est plus.
Mais écoutez, s'il me demandait ce conseil, je le lui donnerais. Mais il ne me l'a pas demandé, donc je ne lui donne pas.
Mais vous avez un avis?
Oui, j'ai un avis, mais je le donnerai à lui, et pas à vous.
Est-ce que vous pensez
Oui, vous pouvez nous livrer votre sentiment, en tout cas.
Ah, mais je considère que les affaires de l'État sont une chose suffisamment sérieuse pour ne pas être traitées en public. Et je dois vous dire que, s'agissant du livre qui est à l'origine de cette controverse, je me suis arrêté à la page 12, quand les deux journalistes du Monde expliquent à François Hollande qu'il refuse de lui soumettre les propos qu'il a prononcés devant un magnétophone, et que lui l'accepte. Ils ajoutent « ce n'était pas négociable ». Donc je considère qu'il y a un moment où le pouvoir... de l'État doit se faire respecter.
Ça n'a pas été le cas.
Et ne pas capituler devant le pouvoir médiatique.
Il a manqué de hauteur à ce moment-là, le président Hollande.
J'ai cessé de lire ce livre à partir de la page 12. Je l'ai...
Alors, on va parler plus largement de l'État de la gauche. Aujourd'hui, d'après les sondages, la gauche, et ce serait une première, ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on se dirige vers cela?
Mais vous savez, nous sommes au terme d'un processus très ancien que vous n'avez d'ailleurs retracé que d'une manière qui, évidemment, est la vôtre, mais pas la mienne. Moi, j'ai choisi, en 1983, alors que j'avais quand même la confiance d'un courant important du Parti Socialiste, de ne pas entériner un choix qui était le choix du ralliement au néolibéralisme. Sous le déguisement européen, parce que l'Europe a essentiellement servi à cela. On est allé vers un acte de dérégulation, l'acte unique, appelé encore traité de Luxembourg, et vers une monnaie unique qui, pour moi, est un choix erroné. Donc il y a très longtemps que je dis que nous allons dans la mauvaise direction. J'ai pris un certain recul, progressivement. J'ai encore été ministre à des postes techniques, en 1984, l'éducation nationale, en 88, la défense, et l'intérieur n'est pas un poste technique, mais j'espérais que nous pourrions réorienter les choses. Ça n'a pas été le cas, et ça légitimait pleinement ma candidature de 2002, que je ne regrette pas, qui n'a en aucune manière contribué au mauvais score du candidat socialiste. Ce mauvais score tient au fait qu'il a fait une mauvaise campagne.
À votre sens, on est allé au bout des erreurs que vous dénoncez depuis quasiment 15 ans.
Avec un volant de chômage qui est de 3,5 millions à peu près, avec un pays qui a largement le sentiment d'avoir perdu ses repères, d'être déboussolé. Nous avons une extrême droite puissante qui représente 28% des voix aux dernières élections régionales. Et naturellement, il y a l'effet essuie-glace, tantôt la droite, tantôt la gauche. Les Français sont toujours mécontents du gouvernement qu'ils subissent. Donc ils font appel à l'autre camp. Mais nous sommes arrivés à un terme de ce jeu d'essuie-glace, de balancier.
Mais est-ce que justement l'essuie-glace, cette fois, ne se fera pas entre la droite et l'extrême droite sans la gauche?
Alors c'est possible, mais ça n'est pas encore écrit, et il faut espérer que ce ne sera pas le cas, parce que je pense que la droite n'a pas de vision. Je regardais le débat des cinq candidats, ou des sept candidats, des sept candidats que la droite nous propose. Certains sont un peu plus construits que d'autres, mais ça manque complètement de vision. Ils ne parlent pas de l'Europe, ils ne parlent pas de politique internationale. On a vraiment l'impression d'une voiture en panne et puis quelques mécaniciens qui s'affairent. L'un veut remplacer la bougie, l'autre le piston. Disons que tout ça n'est quand même pas rassurant.
Vous pensez qu'à gauche, le débat est de plus haute volée?
Non, je pense que la question qui est posée, c'est de concevoir un avenir de progrès, non seulement pour la France, mais pour le monde entier, donc d'offrir aussi au monde musulman, par exemple, d'autres perspectives que celles qu'il a aujourd'hui. D'offrir au monde entier, c'est-à-dire de ne pas accepter d'être demain dans un monde qui serait dominé par les États-Unis et la Chine, organiser l'Europe, mais de l'Atlantique à la Russie. De ce point de vue-là, je n'ai aucune complaisance vis-à-vis de qui que ce soit. Je suis un patriote français, et par conséquent, c'est l'intérêt de la France que d'avoir avec la Russie des liens normaux.
On va en parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un à gauche qui incarne ces valeurs que vous décrivez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Il va y avoir des primaires à gauche, a priori.
Vous savez, dans le système de la Ve République, les gens qui ne sont pas parvenus au sommet ne révèlent pas entièrement qui ils sont. Alors, il y en a trois qui émergent à gauche.
C'est... Pour rebâtir la gauche, parce que c'est de ça dont nous parlons maintenant.
Pour la gauche, bien évidemment. Oui. Il y en a trois qui émergent.
Il y a tout à refaire, à votre sens.
C'est Montebourg, Valls et Macron. Je crois que ces trois-là...
Qui a votre préférence dans les trois ?
Alors, je vous le dirai le moment venu. Mais je vous le dirai le moment venu, parce que pour le moment, on ne sait pas comment les choses vont s'organiser. Donc, pourquoi voulez-vous que moi, je parle comme ça à la cantonade ?
Parce que c'est trois points de vue différents, Montebourg, Valls et Macron.
Très
donc, on imagine que vous aurez sans doute une petite préférence d'ores et déjà.
Il a une continuité en matière de politique industrielle, en matière de critique des institutions européennes.
C'est le plus proche de vous ?
Incontestablement, il s'inscrit dans la ligne qui a été longtemps la mienne. Macron est certainement un homme plein d'imagination, mais on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a au magasin.
Donc, il n'est pas trop libéral pour vous, Emmanuel Macron ?
Je pense qu'il pourrait corriger le fait qu'il prend acte de ce que nous sommes sur un marché mondialisé. Mais il pourrait corriger cela. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Ça, il faut le reconnaître.
Emmanuel Valls, quand même.
Emmanuel Valls a un discours qui est adapté au temps d'épreuves que la France a devant elle. Car les attentats qui nous ont frappés, ils risquent de se reproduire. Ils se reproduiront même certainement. Ne pas croire que après la chute de Mossoul, quand on ne sait pas, ou de Raqqa, Daesh va s'évanouir. Al-Qaïda est toujours présent et nous avons affaire à un mythe qui est, je dirais, le mythe du djihad avec une vision apocalyptique du monde. Tout cela ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc il faut, bien entendu, du sang-froid, du courage, de la détermination.
Et il en a.
Je pense que Manuel Valls a montré une certaine résolution.
Vous pensez que le rassemblement, ces trois-là, est possible ? On entendait la semaine passée les appels, justement, du Premier ministre Manuel Valls à ce rassemblement à gauche, les appels
Je ne sais pas quand ce rassemblement se fera.
Vous pensez que ça pourrait tenir la route avec de telles différences ?
Oui, ils ont des différences, mais dans un parti, on peut avoir des différences. Quand j'étais le principal animateur du CRS, avec le quart des mandats dans le Parti socialiste d'alors, ça jouait au congrès de Metz, par exemple. J'ai aidé Mitterrand à reprendre la barre.
Oui, mais c'était avant la gauche la plus bête du monde, en tout cas celle que semble craindre Manuel Valls.
L'expression « la gauche la plus bête du monde » est très ancienne. Elle date de Guy Mollet. Elle était tout à fait judicieuse.
La perspective d'une victoire de Marine Le Pen. Est-ce qu'on a parlé de 2002 ? Vous avez voulu rectifier ce qui a été dit. Là, on est dans une autre perspective. Est-ce que vous pensez, beaucoup de gens pensent qu'elle arrivera au second tour, c'est sûr, mais elle n'ira pas plus loin. Est-ce que c'est votre avis ou est-ce que vous craignez quand même autre
Je pense
chose
que le peuple français est un vieux peuple républicain. Il a montré beaucoup de bon sens par rapport à ces attentats qu'il a subis. Et il comprend très bien que Daesh veut nous conduire à la guerre civile. Et il n'a pas envie de donner, en quelque sorte, du grain à moudre à ceux qui voudraient nous conduire à la guerre civile. Donc ils comprennent très bien que, bien qu'elle ait mis un peu d'eau dans son vin, Marine Le Pen n'est quand même pas quelque chose qui contribuerait à redorer l'image internationale de la France. Par conséquent, je pense qu'il y a en effet un plafond de verre et que Marine Le Pen ne le dépassera pas.
Une dernière question sur ces élections en 2017. Est-ce que vous irez voter aux primaires de la gauche en janvier ? Je ne vais pas vous demander pour qui, mais est-ce que vous irez d'abord ?
Peut-être. Je ne sais pas. Je ne me suis pas encore décidé.
Alors là, vous m'encouragez à poser la question d'après. Pour qui irez-vous voter si jamais vous allez voter en janvier à ces primaires de gauche ?
Bien, voyez-vous, j'attends que les choses soient, que le jeu soit arrêté. Et puis je me prononcerai à ce moment-là. Mais je le ferai dans l'intérêt du pays. Et je choisirai le candidat qui me paraîtra le mieux à même d'ouvrir un autre chemin à notre pays.
Donc, pas François Hollande, a priori, si vous parlez d'un autre chemin.
Je me suis placé dans cette perspective, évidemment. Je pense que... je n'ai même pas envie de vous dire ce que je pense.
C'est dommage.
Pas du bien, visiblement.
Comment ?
Pas du bien.
Vous savez, je connais François Hollande sur le plan personnel. Et sur le plan personnel, j'ai de l'amitié pour lui.
Sur le plan politique ?
Sur le plan politique, je ne partage pas la conception qu'il a de l'État.
Mais vous n'iriez pas jusqu'à dire, comme le dit l'opposition aujourd'hui, qu'il a abaissé l'autorité de la fonction présidentielle?
Non, je ne veux pas prononcer des paroles que vous pourriez demain reproduire comme étant...
Elles ne reproduisent pas en direct.
Comment?
Donc, elles seront entendues à tout le monde.
Elles seront entendues. Donc je préfère ne pas prononcer ce genre de paroles que vous attendez, bien entendu. C'est normal, c'est votre métier.
On va passer à la question de l'islam de France. Donc vous avez été nommé un petit peu à la surprise générale, si j'ose dire, au cœur de l'été, à la tête de cette fondation pour l'islam de France. Elle n'est pas encore totalement née. Il y a eu immédiatement une polémique. On va écouter ce que vous avez déclaré et la réponse de Daniel Cohn-Bendit.
Prenez le métro pour aller par exemple à Saint-Denis ou à Sarcelles, regardez ce qui se passe. Naturellement, les populations anciennement installées, ouvrières en général, ont quitté la plupart de ces communes. Le processus de l'intégration n'est plus possible, puisqu'il y a à Saint-Denis, par exemple, puisqu'on a pris cet exemple, 135 nationalités, mais il y en a une qui a quasiment disparu.
Il dit en Seine-Saint-Denis, il y a 118 pays, mais il y a une nation qui a disparu, c'est la France. Il est complètement malade, enfin, il y a 80% des gens en Seine-Saint-Denis sont français.
Oui, c'est du colonialisme.
C'est une erreur politique que fait le gouvernement ?
C'est une erreur éthique qui devient une erreur politique.
Votre réaction à la réaction.
Je ne polémique pas avec Daniel Cohn-Bendit. Et si vous m'aviez prévenu que c'était l'objet de votre invitation, je ne serais pas venu. Hein. Mais je vous dirais tout simplement que je n'ai pas tenu ces propos. J'ai dit que la classe ouvrière française avait en effet disparu en Seine-Saint-Denis, très largement disparu, du fait de la désindustrialisation, qu'elle avait été remplacée par des populations pauvres, et que l'absence de cette population contribuait à la panne de l'intégration, qui est un des problèmes que nous connaissons. Car aujourd'hui, s'il y a eu des actes de terrorisme, c'est le confluent de deux choses. Des conflits internationaux dans le Moyen-Orient, dont vous savez ce que je pense. J'ai démissionné au moment de la première guerre du Golfe, qui nous a conduit à ce que nous voyons aujourd'hui. Hein, et par ailleurs, il y a les problèmes de la société française, un chômage de masse qui frappe particulièrement les jeunes, et notamment issus de l'immigration, et puis une panne de l'intégration qui est préoccupante. Enfin, je dirais, certains sont intégrés, bien même, hein, à moitié, et puis une autre ne le sont pas, et fournissent un terreau aux semeurs de graines djihadistes, aux prédicateurs salafistes.
Vous pensez qu'on vous fait un procès d'intention tout de suite dès cette nomination? Vos adversaires politiques se sont dit, on va attaquer Jean-Pierre Chevènement.
Mais je ne me suis jamais fait aucune illusion. Moi, je n'ai pas demandé à occuper cette fonction. Si je le fais, c'est pour rendre service à mon pays. Il y a 5 millions de musulmans. Je pense que ces musulmans doivent être des citoyens français, avec tous leurs droits. Et aussi, naturellement, leurs devoirs. Mais si j'ai accepté cette proposition que m'a faite le ministre de l'Intérieur au mois d'avril dernier, et avant que le président de la République n'en parle un peu à la cantonade, si j'ai accepté cette proposition, c'est parce que, en 1999, ayant lancé une consultation avec toutes les sensibilités de l'islam présentes en France, pour essayer de les organiser, de faire émerger un islam de France, puisque aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes de tradition musulmane se sentent proches de leur pays d'origine. Ça peut être l'Algérie, ça peut être le Maroc, la Tunisie, la Turquie ou les pays de l'Afrique subsaharienne. Mais il n'y a pas aujourd'hui un islam français. Quand je vais, par exemple, en Algérie, Monsieur Aïssa, qui est un homme très remarquable, ministre des Affaires religieuses, me dit qu'il veut essayer de construire un islam à l'algérienne, dans la tradition de l'Andalousie, et par conséquent à l'abri d'un certain nombre d'influences qui viennent de pays que je n'ai même pas besoin de nommer.
Vous dites « j'ai accepté parce que je voulais que les musulmans se sentent des Français comme les autres », c'est pas le cas aujourd'hui ?
Mais j'ai initié cette consultation il y a maintenant 17 ans. Elle a permis la constitution du Conseil français du culte musulman, et je pense que, effet...
On va revenir sur cette histoire, hein. C'est la fin de cette première partie de Mardi Politique, on vous retrouve juste après le flash d'information pour la seconde partie, toujours avec vous Jean-Pierre Chevènement.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour sur le plateau de Mardi Politique sur France 24 et Radio France Internationale avec notre invité Jean-Pierre Chevènement. Monsieur Chevènement, nous parlions juste avant la pause de votre nouveau rôle en tant que président de cette Fondation pour l'Islam de France. Et certains y voient une sorte de tutelle politique de l'État français sur la communauté musulmane. Qu'est-ce que vous répondez à cela ?
C'est absurde. C'est absurde, pour une raison très simple, c'est que il n'y a pas aujourd'hui une communauté musulmane en France, ça n'existe pas. On peut même pas dire qu'il y a une communauté algérienne. Hein. Alors, les Turcs sont bien organisés, les Marocains en réfèrent naturellement à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est commandeur des croyants, mais il n'y a pas un islam français organisé. La fondation que je dois présider, n'a qu'un but profane. Je n'interviens pas dans les affaires religieuses. Je n'ai pas à me substituer aux imams. Ça, c'est leur affaire. C'est l'affaire des musulmans, hein, qui peuvent naturellement s'occuper de ces choses-là valablement. Moi, je me contente d'intervenir avec la fondation sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan social, et à créer un pont entre la République et l'islam, pour que les Français comprennent mieux ce qu'est l'islam, que l'adversaire, ce n'est pas l'islam, c'est une pathologie de l'islam qu'on appelle le terrorisme djihadiste, mais qu'il ne faut pas confondre avec l'islam. Hein. Donc il faut que les Français comprennent mieux l'islam, et d'autre part, il faut que les musulmans comprennent mieux ce qu'est la République française, ce qu'est par exemple la laïcité. La laïcité n'est pas, comme certains le disent, dirigé contre la religion.
La laïcité, ce sera au cœur de votre action en tant que président de la Fondation
pour l'Islam
de France.
Mais bien entendu, moi, je n'interviens qu'au niveau...
C'est ça qui a manqué dans les années passées pour organiser
non, c'est en
l'islam
soi, c'est
de France,
un sujet difficile.
Non pas l'islam en France.
Parce qu'il y a des rivalités entre les différentes obédiences. Mais j'ai quand même contribué à faire que cela s'organise, à rendre possible l'exercice du culte en facilitant par exemple la construction de mosquées, hein, mais en rappelant qu'il y a des règles auxquelles d'ailleurs toutes les sensibilités de l'islam avaient souscrites. Je me souviens, c'était le 28 janvier 2000, j'étais ministre de l'Intérieur, et toutes les sensibilités de l'islam ont accepté les principes de la République, dont la laïcité, l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation de l'Église et de l'État, tout ça a été écrit noir sur blanc, et voilà, je pars de là. Pour moi, c'est un acquis, et il faut que cet islam compatible avec la République puisse se développer sur des bases raisonnables.
Mais alors, un problème qui se pose, et qui se pose au niveau du culte cette fois, c'est le financement. On entend des responsables français dire « il faut arrêter de voir cet argent venir de l'étranger, il faut que l'islam français soit financé en France ». Est-ce que ça va changer ? Est-ce que pour la formation des imams...
La condition que j'ai mise à mon acceptation, car il n'y a que des coups à prendre dans cette affaire. J'ai accepté, bien entendu, mais je le savais très bien, hein, j'ai accepté à condition qu'il n'y ait pas d'argent venu de l'étranger, et naturellement à condition que je reste libre de ma parole en tant qu'homme politique.
Et comment est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y aura plus d'argent de l'étranger ? Est-ce que de nouveaux mécanismes vont être mis en place ?
De nouveaux mécanismes devront être mis en place, en particulier à partir du marché du halal.
Une taxe ?
Non, pas une taxe, une contribution volontaire, mais des discussions sont engagées à ce sujet. Disons que quand des décisions ont été prises, ben vous le saurez.
On vous réinvitera alors. Je reviens sur cette question de la laïcité. Là, on voit à quel point le sujet est sensible. Vous avez à un moment appelé les musulmans à la discrétion. On parlait en pleine polémique sur le voile. Et pour autant, vous n'interdisez pas le voile dans la rue, ni même le burkini. En tout cas, vous n'êtes pas contre le port de l'un et de l'autre.
Non, mais écoutez, vous ramenez la laïcité à des tenues vestimentaires, c'est pas
non, un sujet d'actualité.
La laïcité, c'est l'idée qu'il y a un espace commun à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, où ils peuvent débattre de l'intérêt général à la lumière de la raison naturelle, c'est-à-dire d'une argumentation raisonnée, sans pour autant se prévaloir de leur dogme, de leur affiliation religieuse. Voilà, ça vaut pour toutes les religions, pour les musulmans comme pour les autres. Maintenant, il y a un problème d'intégration. Disons que c'est vrai que toutes les vagues antérieures de l'immigration ont fait l'effort de se plier plus ou moins aux us et coutumes du pays d'accueil. Et je recommande amicalement à nos compatriotes musulmans de s'inspirer de cet exemple. Par exemple, l'égalité homme-femme a fini plus ou moins par passer dans les mœurs en France. Eh bien, il faut qu'ils comprennent que ce sont des valeurs auxquelles les Français sont attachés.
Vous êtes sur cette idée d'intégration plutôt que celle développée par d'autres, d'assimilation ?
Mais vous savez, tous ces mots sont mal compris. Il n'y en a pas de bon. Même le mot intégration n'est pas forcément le meilleur. Mais je trouve qu'il n'y en a pas d'autre qui puisse vraiment signifier que la France accepte des cultures d'apport, mais à condition qu'elles ne nuisent pas, en quelque sorte, à sa personnalité structurée. J'emprunte là les mots qu'utilisait Jacques Berck il y a une trentaine d'années, qui était mon maître spirituel, si je puis dire. Donc, voilà. Donc, on peut peut-être s'arrêter là. La laïcité, c'est bon pour tout le monde, et ça ne correspond pas forcément à l'idée que certains veulent en donner.
Alors on va passer sur la partie internationale que vous abordez largement dans votre livre, Un défi de civilisation. L'actualité immédiate, c'est la prise de Mossoul qui semble s'engager. Vous avez pris des positions dans le passé, vous en l'avez évoqué avant sur l'Irak. Est-ce que vous pensez que la prise de Mossoul, celle à venir de Raqqa, est un moment clé, comme le disent les dirigeants à la fois irakiens ou occidentaux?
Alors même quand Mossoul aura été prise, ou Raqqa, on n'en aura pas fini avec le terrorisme djihadiste, parce que celui-ci est encore une fois un phénomène de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il est mu par un profond ressentiment que la majorité des Français ne comprennent pas, mais qui vient de l'histoire. Il y a eu la colonisation, c'est un fait. Il y a eu des interventions déstabilisatrices, par exemple les deux guerres du Golfe. Il y a eu un certain nombre de choses, mais je trouve qu'il est excessif d'en faire porter la responsabilité à la France. Parce que la France, par la voix du général de Gaulle, a protesté contre la colonisation de la Cisjordanie en 1967. François Mitterrand a exfiltré Yasser Arafat du Liban en 1984. Jacques Chirac s'est élevé contre la deuxième guerre d'Irak. Alors bien sûr, la France a des torts sur un certain nombre de dossiers. Nous nous sommes trop longtemps entêtés à vouloir garder l'Algérie française, alors que le peuple algérien est un autre peuple et qu'il fallait reconnaître son indépendance. Et c'est ce que je pensais, d'ailleurs, à l'époque. Ensuite, nous avons certainement commis quelques erreurs, ne serait-ce que la première guerre du Golfe, qui nous a associés à la puissance américaine derrière les monarchies du Golfe, pour abattre un régime qui avait beaucoup de défauts, mais qui était quand même un régime moderniste, laïque, et je dirais qu'il était possible de faire l'économie.
Saddam Hussein, moderniste.
Il était possible de faire l'économie de cette guerre, qui a été décidée par le président Bush dès le 3 août. 1990, et Saddam Hussein était prêt à se retirer du Koweït si on avait substitué aux troupes irakiennes des troupes arabes. Cela n'a pas été fait, c'est dommage, parce que la destruction de l'État irakien...
On le paye encore aujourd'hui ?
On le paye encore aujourd'hui.
Elle est liée à la création de l'État islamique, de ce groupe terroriste ?
Mais bien évidemment, parce que la destruction de l'Irak a fait que la majorité est devenue chiite, et que les chiites ont voulu prendre une revanche historique sur les sunnites, qui avait toujours détenu le pouvoir, et ça explique que pratiquement on a offert sur un plateau les populations sunnites de l'ouest irakien, Tikrit, Fallujah, Mossoul, d'abord à Al-Qaïda dans les années 2005-2006, puis ensuite à Daesh, quand Daesh s'est constitué. Et par conséquent, nous sommes là en face d'un résultat qui n'avait pas été voulu, mais qui est quand même le résultat d'une politique qui n'était pas pensée.
Donc c'est toujours les mêmes erreurs qu'on commet. Vous pensez que là, on chasse Daesh pour avoir quelque chose d'autre?
Je pense qu'on commet toujours un certain nombre d'erreurs et que le principe de non-ingérence, qui est d'ailleurs un principe inscrit dans la Charte des Nations Unies, nous devrions y être plus souvent fidèles.
Donc la France ne devrait pas intervenir en Syrie et en Irak en ce moment?
Je pense qu'en Syrie, on a cru prendre le train des révolutions arabes, enfin des printemps arabes en marche, quand on pouvait espérer qu'elles donneraient des résultats démocratiques. On s'aperçoit que c'est pas du tout ce qui s'est passé, que les islamistes ont pris le pouvoir en Tunisie, en Égypte, et que en Syrie, eh bien, Bachar el-Assad avait beaucoup plus d'appui dans la société syrienne qu'on ne le croyait.
Obama a bien fait de stopper toute velléité de guerre en Syrie au moment où la France, d'ailleurs, était prête.
Pour moi, oui, parce qu'on aurait donné le pouvoir aux islamistes. On aurait donné le pouvoir aux islamistes.
C'est le contraire de ce que dit François Hollande, la plupart des dirigeants occidentaux.
J'en suis tout à fait conscient. C'est le contraire de ce qu'il dit. Mais moi, je pense que c'est une erreur. Et qu'on prolonge une guerre inutile qui a déjà fait assez de souffrances. Et je pense que l'humanisme vaut mieux que l'humanitairerie dont se prévalent un certain nombre de beaux parleurs, comme M. Bernard-Henri Lévy ou M. Daniel Cohn-Bendit. Je pense qu'il faut savoir apprécier une situation. Pascal le disait à sa manière, l'homme n'est ni ange ni bête, et celui qui veut faire l'ange fait la bête. Par conséquent, je pense qu'en Syrie, il aurait mieux valu unir nos efforts, l'ensemble des pays qui aujourd'hui interviennent en Syrie, en plus de la guerre civile intersyrienne.
Vous avez quand même
une intervention turque, vous avez une intervention séoudienne. Est-ce que c'est notre rôle de contribuer à la désagrégation d'un certain nombre d'États du Moyen-Orient que, au contraire, je pense, il faut rendre vivable pour leur population, faire un Irak fédéral.
On le fait à la justification que le terrorisme qui nous frappe sur notre territoire national vient de là.
Je pense qu'il serait venu de toute façon, parce que ce terrorisme a une histoire. Il y a le djihad afghan, le djihad planétaire d'Al-Qaïda, le djihad de territorialisé de Daesh, et que c'est en 2006 qu'un Syrien, Al-Souri, a envisagé d'utiliser un certain nombre de jeunes hors sol, déboussolés,
pour frapper sur notre sol, attentats. Frappé par les attentats qu'on a connus ces deux dernières années en France, on n'irait pas, nous, Français, combattre le terrorisme de Daesh en Syrie ou en Irak?
Mais il ne faut pas renverser les choses. Il faut voir dans quel ordre ça s'est fait.
Mais maintenant.
Mais je ne veux pas mener.
Si vous étiez toujours ministre de la Défense, vous soutiendrez la double offensive en Irak et en Syrie contre Daesh?
Oui, mais si vous voulez, il faut voir dans quel ordre ça s'est fait, qui prend l'initiative politique. Donc cela nous conduirait certainement à revenir sur un certain nombre d'épisodes. Ce n'est pas forcément souhaitable aujourd'hui, dans l'intérêt même de la France. Je veux dire que nous sommes frappés et nous avons raison de nous défendre. Et je suis naturellement, et c'est le sens de mon livre, pour que nous prenions la pleine mesure du problème. Ça s'appelle un défi de civilisation. Que nous comprenions que ce n'est pas seulement le terrorisme djihadiste, que ce n'est pas l'islam, mais que c'est un phénomène plus général, qui est une globalisation devenue folle, qui a particulièrement réagi sur le monde musulman, mais... Pour nous aussi, en Europe, la géopolitique n'est plus du tout ce qu'elle était. La France était, il y a 50 ans, la puissance dominante. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne. Et dans le monde, on voit la montée de la Chine et des États-Unis. La question qui se pose, est-ce que l'Europe va encore exister, ne serait-ce que pour donner la main aux populations de continents voisins, comme par exemple le Moyen-Orient? Il faut quand même rétablir la paix au Moyen-Orient et l'Afrique qu'il faut aider à décoller. Ce sont ces problèmes-là que j'aborde dans mon livre et qu'on peut rarement aborder à la télévision. Mais je vous remercie de m'en offrir l'occasion. Mais c'est ça qui est fondamental, c'est de pouvoir régler à terme ces grands problèmes. Or, je le dis, il y a un chemin. Nous ne sommes pas condamnés à la désespérance. Alors, il y a un chemin, mais qui implique la lucidité.
Il y a un chemin qui aussi passe visiblement par Moscou. Vous êtes en faveur de la levée des sanctions contre la Russie. Est-ce que quand même, vous n'êtes pas choqué par l'intervention militaire russe en Syrie généralement, et plus particulièrement par les bombardements russes sur Alep, qualifié par la diplomatie française de crime de guerre?
Moi, ce qui m'a choqué, mais il y a déjà très longtemps, c'est la russophobie ambiante, qui existait bien avant la crise ukrainienne. et bien avant que s'envenime le conflit syrien. Je pense que il y avait une tradition qui était celle des relations amicales entre la France et la Russie, portée par la Troisième République, le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et puis il y a, certainement inspiré par des intérêts qui ne sont pas les nôtres, des gens qui veulent nous brouiller avec la Russie. L'affaire ukrainienne,
pas Poutine, la responsabilité Poutine partagée... Y met du sien. Le président Poutine y met du sien également, par ailleurs.
Non, mais je ne dis pas que la responsabilité n'est pas partagée.
J'entends bien.
Sans doute a-t-il réagi trop vivement à l'éviction de Yanukovych, qui était peut-être un président corrompu, mais qui avait quand même été élu. C'était quand même un coup d'État. Donc il a réagi par la... comment dirais-je, le rattachement de la Crimée à la Russie, parce qu'il avait passé les intérêts géostratégiques de la Russie avant tout le reste, qu'il y avait un bail de 42 ans et qu'il pouvait craindre que le nouveau gouvernement révoque ce bail qui donnait le port de Sébastopol.
Sur cette histoire de la Crimée, vous dites, bon, il a réagi un peu trop vivement. Quand aujourd'hui il bombarde avec ses alliés syriens des populations civiles sur Alep, est-ce que vous, Jean-Pierre Chevènement, à ce moment-là, vous parlez également de crimes de guerre.
Mais excusez-moi, mais la trêve a été rompue par qui ? Par l'aviation américaine qui a frappé par erreur.
Mais avant
Ah oui, c'était avant. Mais c'est comme ça que ça a commencé.
J'entends bien, mais maintenant,
Ensuite, vous avez des rebelles syriens, mais dont on oublie de vous dire qui ils sont. Ils s'appellent Ahrar el-Sham. Ils s'appelaient encore le front al-Nostra il y a un peu moins d'un mois. Et entre Al-Qaïda et Daesh, moi, je ne choisis pas.
Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que bombarder des populations civiles sur Alep, c'est comptable de crimes de guerre, comme le dit la France?
Mais il y a eu une trêve de plusieurs jours qui permettait l'évacuation de ces populations civiles et des rebelles qui voulaient effectivement gagner la Turquie, dont on oublie de rappeler qu'elle a ouvert ses frontières pour permettre la déstabilisation du régime de Bachar el-Assad. Tout cela est quand même un peu plus compliqué qu'on nous le dit. Un formatage de l'opinion. Et je le dirais malheureusement aussi par les médias de service public. Vous êtes le seul à m'inviter. Je ne suis invité ni par France Info, ni par France Inter, ni par...
Vous serez ce soir à nouveau sur France Info au cours de cette même émission.
Mais on a quand même l'impression que Vladimir
Poutine... Sur RFI.
Voilà. On a l'impression que sur Vladimir Poutine, que vous aviez rencontré d'ailleurs à l'instigation de François Hollande, vous avez une certaine réserve, vous qui êtes en faveur des droits de l'homme et tout ça, qui peut choquer. Parce que Vladimir Poutine, visiblement, a choisi la manière forte en Syrie, y compris en commettant ce que beaucoup considèrent comme des crimes de guerre.
Mais
pourquoi cette mansuétude ?
Mais je n'ai pas de mansuétude particulière à l'égard de quiconque. Je constate que sont en Turquie des forces armées turques. Je constate que Al-Nostra est alimenté en armes et en financement par l'Arabie saoudite. Je dirais que l'ingérence extérieure en Turquie est générale. Et je pense qu'il faudrait en effet qu'il y ait une gouvernance mondiale qui se reconstitue, d'abord entre les États-Unis et la Russie, d'ailleurs entre Lavrov et Kerry, qui se sont rencontrés à maintes reprises, pour mettre un terme aux souffrances du peuple irakien. Et pour rendre le gouvernement plus représentatif. Nous avons le même problème en Syrie qu'en Irak. Nous avons des gouvernements qui ne sont plus représentatifs de la population. Et il y a une partie des populations qui se sont écrasées, brimées, opprimées. Et c'est à cela qu'il faut mettre un terme. Voilà. Et une grande politique extérieure de la France consisterait à jouer les médiateurs entre les parties prenantes, plutôt que de prendre parti, par exemple, pour les sunnites contre les chiites. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est d'être un médiateur entre l'Arabie saoudite et l'Iran.
Alors cette partie diplomatique-là se jouera bientôt avec un nouveau président ou une présidente américaine. Quel est votre sentiment ? Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne qui a été souvent dans la petitesse, voire dans le caniveau entre Clinton et Trump ? Et est-ce que vous craignez l'élection de Trump ou pas du tout ?
Je crains l'élection de Trump, mais je ne suis pas rassuré par celle de Clinton, qui est ce qu'on appelle un faucon libéral. Je sais où cela peut conduire. Et je pense que le spectacle des élections américaines devrait conduire les Européens, et nous particulièrement les Français, qui sommes quand même les héritiers de la diplomatie du général de Gaulle, à reconsidérer un petit peu nos paramètres et à rompre avec une politique occidentaliste. Atlantiste, si vous préférez, pour revenir à l'indépendance nationale. Car quand on voit qui va diriger les États-Unis, Quand on sait que les États-Unis considèrent que ce qui est important maintenant, c'est l'Asie-Pacifique, ce n'est plus l'Europe, le moment serait venu pour les Européens de reprendre en main leurs affaires.
Mais Trump, a priori, le protectionnisme, le retour sur les États-Unis, ça pourrait vous convenir comme idée ?
Vous savez, le protectionnisme, le commerce international augmente beaucoup moins vite que par le passé. Et il y a des mesures protectionnistes qui ont été prises, par exemple, par l'Allemagne, notre gros voisin, vis-à-vis de la Chine. Donc, je considère qu'il y a un équilibre à gérer, mais raisonnablement, dans le monde. Je ne sais pas à quoi ressemblera Trump quand il sera élu, s'il doit être élu. Je ne le souhaite pas. J'ai connu Reagan avant qu'il ne soit élu. Et il a donné un président qui ne correspondait pas tout à fait à la description qu'on en donnait. Donc les Américains sont maîtres chez eux, hein, ce n'est pas à moi de dire pour qui il faut voter.
Merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement, merci Véronique Rigolet, merci à vous d'avoir regardé Mardi Politique sur France 24 et sur Radio France Internationale.